Alors maintenant, oui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce temps? Ah ben par exemple, écouter lire. Ah oui, bonne idée. Écouter lire l'émission de Radio Alto, c'est maintenant.
Rarement on nous aura parlé de la nourriture dans son rapport intime avec les passions humaines avec tant de sensualité et d'humour que ne le fait Bulbul Sharma. Voici de Bulbul Sharma qui meurt d'hymne. Sharma, extrait du recueil La colère des aubergines, qui meurt d'hymne. Ma grand-mère se faisait du mauvais sang pour la moindre vétille. Mais quelques semaines avant l'anniversaire du décès de grand-père, ce tracas tournait à la panique. Elle traitait d'abord ses deux sources d'angoisse favorites, nettoyer la maison de fond en comble et préparer un repas spécial pour la cérémonie, gardant la troisième pour la fin, trouver un prêtre à nourrir. Elle s'y consacrait exclusivement, avec une énergie frénétique. Dans la maison, déjà propre d'ordinaire comme une salle d'hôpital bien tenue, planaient les effluves entêtantes du fénil. « Tu as trouvé le lamp black ?» demandait-elle avec une pointe de soupçon à Gopal, le jeune domestique. C'était la marque de fénil qu'elle utilisait. Comme elle ne pouvait lire le nom écrit en anglais sur l'étiquette, elle tenait le flacon débouché sous son nez pour le respirer comme un cognac de grande cuvée. La pièce où devait se dérouler le shraddha annuel de grand-père fut nettoyée à grandes eaux et récurée jusqu'à ce que les contours de ciment de l'antique dallage partent en morceaux, que Gopal ramassa comme preuve de sa diligence infatigable. Je m'attendais chaque jour à ce qu'il se rebiffe en jetant à terre chiffon et balai. Mais il redoublait au contraire de frénésie avec le temps, balayant et époussetant comme un possédé. Il se cognait au mur, se prenait les pieds dans ceux des tables tout en passant sur le sol sa serpillière imbibée de fénil, maugréant contre quiconque se mettait sur le passage de sa reptation de pieuvre. Mis à part Gopal, seule ma grand-mère était autorisée à franchir le seuil de la chambre du shraddha. L'après-midi, à l'heure où tous les autres faisaient la sieste, je la voyais assise par terre, à côté du jeune homme, dans un coin de la vaste pièce. Ils chuchotaient comme des conspirateurs, traquant la moindre traînée de poussière. Leur comportement tourna un jour à l'hystérie en constatant qu'un moineau avait profité d'un moment d'inattention de Gopal pour entrer et laisser sur le sol trois petites flaques éloquentes. « C'est peut-être un bon présage, » dit Gopal pour tenter d'échapper aux reproches de grand-mère. La phase de nettoyage enfin terminée, on passa à la préparation du repas. Les éléments principaux du menu, kheer, puri et curry de pommes de terre, ne variaient pas, mais il fallait prévoir deux plats nouveaux. La famille au complet se réunit pour en discuter. « Fais du chou-fleur, grand-père adorait ça, » dit mon frère, poussé par une envie personnelle de chou-fleur. « Ah, ce n'est pas vrai, ça lui donnait des gaz !» répliqua ma grand-mère. « Des carottes et des pois, alors ?» proposa mon père. « Des carottes ? Mes proches sont-ils des lapins pour que je leur fasse manger des carottes ?»« Et que va penser le prêtre ?»« Non, nous allons préparer des graines de lotus et du curry de panir !» dit-elle d'un ton sans réplique, et le débat fut clos. Gopal et grand-mère avaient déjà commencé à s'occuper des ingrédients. Amandes et raisins secs, pâlis à force d'avoir été rincés, attendaient, décolorés, sur les assiettes. D'énormes quantités de riz basmati avaient été soumises à un examen minutieux, à la recherche de pierres cachées, et grand-mère avait eu pour scruter les pommes de terre, avant de les choisir, le même regard impitoyable dont elle avait détaillé les candidates au mariage de ses fils. Dès la veille du Shraddha, la cuisine fut réservée à la préparation des mets de la cérémonie. Quelques parents enthousiastes étaient déjà arrivés. Dès qu'elles passaient le seuil de la maison, les femmes se précipitaient sans rien demander à personne pour contribuer aux préparatifs du repas. Elles ôtaient leurs sandales, se lavaient les mains et s'asseyaient sur le sol de la cuisine. En l'espace de quelques minutes, elles avaient trouvé le bon rythme et travaillaient en parfaite coordination avec ma grand-mère. Je ne l'ai pourtant jamais entendu leur donner d'instructions. Elles s'activaient le plus souvent en silence, mais de temps à autre, l'une d'elles communiquait brièvement aux autres une petite nouvelle intéressante. « Ma belle-sœur Mira a eu encore une fille !» déclencha un soupir collectif. « Ralaji a vendu sa maison pour 10 millions de roupies !» fit de stupéfaction, béait toutes les bouches. Certaines remarques à succès revenaient chaque année sans prendre une ride. « Grand-mère, tes yeux détectent le caillou le plus minuscule !» disait une cousine alors qu'elle triait le riz. Et ma grand-mère lui adressait aussitôt la réplique convenue. « C'est que nous avons mangé du ghee pur, et dans ma jeunesse, il n'y avait pas de télévision pour nous faire larmoyer les yeux. »« Maji, comment fais-tu pour garder ta maison si propre ?» était un autre leitmotiv que la vieille dame aimait beaucoup. « Le garçon m'aide, mais je dois veiller au moindre... » répondait-elle en levant les sourcils avec un coup d'œil rapide en direction de Gopal. Toutes les femmes et Gopal lui-même comprenaient l'accusation tacite. Le moment était venu de se mettre en quête du prêtre. Chaque femme fit à ma grand-mère un rapport sur les nouveaux desservants qu'elles avaient pu voir officier au cours de mariage, funérailles, shraddha, cérémonies d'attribution du nom et autres pendaisons de crémaillère, en mentionnant la taille, le poids et l'âge de chacun d'eux, entre autres informations descriptives. Ma grand-mère était tout ouïe, et ses yeux pâlis avaient pris l'éclat du vieil argent. Quand elle les eut tous rejetés l'un après l'autre, elle se laissa aller contre le mur de la cuisine et se mit à gémir. « Que va-t-il advenir de son âme? Comment oserais-je me présenter à lui quand je le retrouverai au paradis? Oh, mon Dieu, aidez-moi à trouver celui qui convient !» Elle sanglotait à présent. Et les femmes regardaient la scène avec un mélange de tristesse, de crainte et de respect, sans que leurs mains aient cessé d'éplucher et de hacher. Le shraddha de l'année précédente avait été perdu pour ma grand-mère parce que le prêtre n'avait rien voulu avaler. Il avait refusé le kheer pour ne pas faire monter son taux de sucre et n'avait accepté que deux purées parce que son médecin lui avait déconseillé les graisses. Qui a jamais entendu parler d'un prêtre au régime? Mais où va le monde? Bientôt ils réclameront de la salade. Comment veulent-ils m'aider à passer le fleuve de la mort quand mon temps sera venu, s'ils ne mangent que des aliments bouillis? Grand-mère avait pleuré plusieurs jours d'affilée, tandis que nous éclusions les restes avec gourmandise, y compris la part du prêtre, celle du lion. Bien que pour ma grand-mère, l'acte de nourrir le prêtre, qui lui vaudrait un bonus important au plan d'épargne, mérite géré par le ciel, fut au cœur de la cérémonie. Elle n'avait trouvé en 10 ans aucun ministre du culte à la hauteur de ses talents culinaires. Elle suspectait certains d'entre eux de n'être pas d'authentiques brahmanes, en leur voyant l'air négligé, les pieds crevassés, terreux. Un vrai prêtre a des pieds de bébé, doux et propres, parce qu'il se les lave régulièrement, affirmait-elle. Elle en avait été conduite d'autres à cause de leur regard fuyant. Elle les soupçonnait de ne pas avoir un niveau suffisant de connaissances ou de ne pas être d'assez haute naissance. Il s'en était présenté un qui sentait le tabac. Elle l'avait aussitôt sermonné et congédié, bien qu'il eût amené avec lui sa propre vache pour le shraddha, un avantage de taille. Certains étaient trop gros à son goût, d'autres trop malingres, trop souffreteux. L'un d'eux, à son grand effroi, parlait anglais et conduisait sa voiture, tandis qu'un autre ne connaissait pas assez bien le sanskrit. Chaque année, un membre de la famille était désigné par ma grand-mère pour se mettre en quête du prêtre. L'un après l'autre, ils avaient tous déçu son espoir. Cette année, son regard perçant auquel j'avais pourtant tenté d'échapper s'arrêta sur moi. « Tu sais conduire ? Va en chercher un dans les temples de la périphérie et n'oublie pas de t'assurer qu'il n'est pas diabétique, » ordonna-t-elle. Je me mis en route avec le cœur lourd du prince en détresse que le père de sa bien-aimée met au défi de traverser 7 fleuves, de combattre le géant et de rapporter le joyau perdu. Je faisais la queue pour rencontrer le prêtre de chaque temple et quand j'atteignais enfin le guichet où se déroulait l'entrevue, c'était pour l'entendre dire qu'il était déjà engagé ailleurs. Essayez de comprendre, chère sœur, combien il nous est difficile de satisfaire tout le monde. Nous ne pouvons manger qu'une fois par jour. Il y a 5 prêtres ici, et nous sommes tous réservés jusqu'à la fin du mois prochain. Je cherchais toute la journée, sans trouver un brahmane qui répondît aux critères exigés par ma grand-mère. Ceux qui étaient disponibles n'avaient pas le poids convenable, le niveau de propreté ou d'outre-mondanité adéquat. Un prêtre refusa notre offre dès qu'il prit connaissance du menu trop riche, et un autre des offrandes en espèces trop maigres. Un troisième, qui venait de me donner son accord, se récusa aussitôt pour accepter une autre offre plus alléchante. J'allais finalement m'avouer vaincu et rentrer à la maison, quand un vieux brahmane me prit en pitié et produisit devant moi, comme par magie, un garçon décharné. « Prenez-le, c'est mon fils, mais je vous préviens, il n'a pas encore tout appris. » Ces toisillons de prêtre avaient tout faux. Depuis la coiffure négligée jusqu'aux baskets dont il était chaussé, mais mon cœur, là, s'en accommoda en toute humilité. À mon retour, dans la soirée, les chaudrons fumaient et toutes les femmes achètent des légumes avec frénésie. « Tu l'as trouvé ?» me demandèrent-elles avides de nouvelles. Je hochai la tête évasivement et sortis de la cuisine. « Comment est-il ? » demanda ma grand-mère. « Jeune, » répondis-je sincèrement. « C'est bien, il mangera avec appétit et sans réticence. Peut-être que je devrais préparer un plat de légumes de plus ? Du chou-fleur ? Oui, ce serait bien puisqu'il est jeune, il n'a pas de souci à se faire pour les gaz. » Elle se retourna, l'air heureux, pour ordonner à Gopal d'aller acheter 5 kilos de chou-fleur. J'étais surprise qu'elle ne veuille pas en savoir plus long sur le prêtre. Sa foi dans la justesse de mon choix me remplissait de honte, en pensant au spécimen que j'avais retenu, et je passais une nuit sans dormir, dans la peur de ce que le lendemain nous réservait. Il faisait encore noir lorsque j'entendis ma grand-mère et Gopal s'activer dans la cuisine. À mesure que le jour se levait, ils furent rejoints par les femmes, à les voir travailler en silence dans la demi-pénombre, avec des mouvements lents et précis, leurs silhouettes se détachant et se superposant comme dans un ballet de fantômes. On aurait pu les croire en train d'accomplir un rituel occulte. Le kir bouillonnait à bruit de bulles crevées dans un énorme chaudron de cuivre. Gopal le remuait sans s'interrompre et la vapeur qui s'en dégageait déposait une fine buée sur son visage. 2 femmes, assises au sol, préparaient une pâte sur un plat, l'une pétrissant la farine, pendant que l'autre y ajoutait régulièrement de petites quantités d'eau. Elle ne se disait rien, mais acquiesçait à l'unisson d'un mouvement de tête chaque fois que le moment de verser l'eau était venu, comme dans une pantomime. Les légumes qui avaient été coupés à l'avance furent jetés un par un avec des épices dans le wok, où l'huile chaude les fit rapidement passer du vert et du blanc au brun caramel. Le menu ainsi préparé se composait des mets suivants. Pommes de terre dans une sauce épaisse à base de tomates exclusivement, ni oignons ni ail, chou-fleur relevé d'une pointe de gingembre, graines de lotus au panir dans une sauce douce, yaourt saupoudré de pois chiches criés, et bien sûr l'inéluctable kir qui allait mijoter à feu doux jusqu'à l'acquisition d'une nuance particulière de rose. Seul Gopal était autorisé à le remuer. Habitué aux travaux durs, ses mouvements étaient les mieux coordonnés de tous. Vous, les jeunes, vous n'avez plus aucune force dans les bras depuis que vous vous épilez à la cire, disait grand-mère dès qu'elle prenait une de ses compagnes, au bras lisse, à toucher au kir. Mais elles étaient bien contentes d'être exemptées, parce que la moindre hésitation dans le processus fait retomber le lait en couche épaisse au fond du récipient, ou pire encore, donne au kir une vague odeur de lait brûlé que seule l'odorat aiguisé de ma grand-mère aurait détecté immédiatement. Je ne pouvais supporter de les voir préparer ce festin pour un apprenti prêtre qui, j'en étais sûre, n'avait aucunement le désir d'embrasser la profession de son père. Mais lorsque je le retrouvais, un peu plus tard dans la matinée, pour le ramener chez nous, il était fin prêt, arborant tous les attributs de son rôle. Un châle couleur safran, drapé élégamment autour de ses épaules, lui donnait l'air plus âgé et ses longs cheveux, qu'il portait maintenant en boucles lisses et soigneusement huilées, ajoutaient à son personnage cette touche supplémentaire de prêtrise que grand-mère désirait si ardemment. Je remarquai qu'il marchait maintenant pieds nus. Nous restâmes un moment silencieux car je ne savais comment m'adresser à lui. Sa dougie, dont il ne méritait pas encore le titre, aurait paru présomptueux et fils trop familier, voire blasphématoire. « Oh, je n'étais encore jamais entré dans une maroutée !» dit-il avec animation en se penchant en avant. Ses yeux brillaient de joie. Il ressemblait à un écolier costumé pour jouer dans une pièce de théâtre. Il m'expliqua qu'il étudiait dans une école où l'enseignement était donné en anglais et qu'il espérait poursuivre ses études à l'université. J'ai appris suffisamment de sanskrit pour pouvoir réciter les différentes formules sacrées et adopter la profession de mon père. « Vous comprenez, madame, » expliquait-il en tripotant l'autoradio, « tant que nous sommes logés au temple, nous ne payons pas de loyer. » Lorsque nous arrivâmes, je sortis de la voiture et me plaçai devant lui, espérant atténuer ainsi l'impression que ne manquerait pas de produire sa petite taille et son jeune âge. « Qu'est-ce que c'est que ça? Un bébé prétounet ?» s'esclaffa mon frère. « Faites-lui vite chauffer du lait, ou donnez-lui du pharex !» Mon jeune prêtre l'entendit, mais n'en monta pas moins les marches, la tête haute. Il mit dans ses yeux le froid regard d'acier dont ses ancêtres avaient dû user pour remettre à sa place plus d'un prince impertinent. Il salua ma grand-mère, main jointe, le regard portant loin au-delà de ses épaules, comme s'il la voyait déjà dans le contexte de l'autre monde. Pendant toute la cérémonie du Shraddha, qu'il conduisit avec dignité et compétence, il ne sourit pas une seule fois. Ni quand mon père trébucha sur le pot en cuivre en essayant de lui laver les pieds, ni quand mon frère lui demanda de réciter les prières à la vitesse supérieure, pas même quand son dhoti se prit dans le nouveau parapluie qu'on lui offrait. Il posa sur tous les dons qu'il allait recevoir un regard de froide indifférence qui impressionna même mes cyniques deux frères. Il se contenta d'acquiescer d'un signe bref devant les objets rassemblés, 7 ustensiles en cuivre, un lit pliant. En l'achetant de préférence à un charpois, ma grand-mère avait fait une concession au temps moderne. 3 dhotis blancs amidonnés, un châle de prix, un énorme parapluie noir et une pile de matelas et couvertures assez volumineuses pour lui durer toute la vie. Puis, il s'assit pour manger, ce qu'il fit d'abord à bouchée lente et pensive. Les femmes l'observaient de la porte de la cuisine et ma grand-mère déployait au-dessus de lui les gestes légers d'un génie aérien issu de la lampe de cuivre qui brûlait près de la natte sur laquelle il était assis. Elle ne le quittait pas des yeux, anticipant ses désirs avant même qu'il ait pu esquisser le moindre geste. Pas un mot n'était échangé. Peu à peu, les légumes se volatilisaient, les puris disparaissaient sans laisser de traces, et pourtant son assiette n'était jamais vide. Les femmes redoublaient de célérité pour étaler les puris que Gopal mettait à frire avec empressement. Le jeune prêtre poursuivait son repas à un rythme lent, mais imperturbable. Ma grand-mère était rayonnante. Les femmes se relayaient pour sortir de la cuisine et le regardaient avec émerveillement. Gopal applaudit son 25e puri avec le cri de jubilation qu'il réservait aux victoires indiennes dans les internationaux de cricket. Enfin, alors que nous, les mécréants, en étions arrivés à craindre qu'il ne nous reste rien à manger, il s'arrêta avec un rot léger, non sans avoir vidé, sans reprendre souffle, tout un chaudron de kir qu'il tenait incliné au-dessus de sa bouche. Ma grand-mère pleurait des larmes de joie. « Revenez chaque année, Pandidji, » murmura-t-elle. « Votre nourriture est la meilleure que j'ai jamais mangée. La prochaine fois, puis-je amener quelques amis ? Ils ne sont pas prêtres, mais... » hésita-t-il en se dépouillant de son attitude hautaine, maintenant que la cérémonie était terminée. « Amenez qui vous voulez, je vous nourrirai ce jour-là, vous et vos amis, jusqu'à la fin de mes jours. » Ma grand-mère mourut l'année suivante. Le jeune prêtre vint une dernière fois afin de prier pour son âme et de prendre son dernier repas chez nous. « Sans elle, la nourriture n'est plus la même, » dit-il. Il mangea pourtant avec le même appétit constant pour lui assurer une traversée du fleuve de la mort sans encombre vers de plus hauts espaces. Notre famille ne pratique plus la cérémonie du Shraddha, remplacée par un don en espèces à une œuvre de charité. Mais où qu'il soit, je suis sûre que le garçon prêtre, aujourd'hui d'âge mûr, poursuit son petit chemin de chenille en mangeant, protégé par l'esprit bienveillant de ma grand-mère qui volait au-dessus de lui. Nous avons entendu de Bulbul Sharma qui meurt Din.
C'était Écouter lire, une émission de Radio Alto.